RFI, grand reportage,
Charlotte Hydrac.
Bonjour, risquer sa vie chaque jour en sortant de chez soi, c'est le sentiment de nombreux Afghans depuis plusieurs années. Un sentiment qui s'est accentué ces dernières semaines avec des attaques successives, 3 en l'espace de 10 jours dans la capitale, au moins 150 morts et plus de 250 blessés. Alors si la vie suit son cours, malgré la résilience, il y a le traumatisme, la vie à Kaboul malgré les attentats. Grand reportage, signé Sonia Ghezali.
Il est 6h du matin, Kaboul se réveille dans la brume. Les muezzines ont fini de chanter l'appel à la prière. Les rues commencent à s'animer, la circulation sur les grandes artères de la capitale afghane reprend. Chicken Street, elle, reste tristement calme. La rue des antiquaires, des boutiques de tapis, de bijoux, de robes et de châles traditionnels est morne. Meurtri après l'attaque qui a tué plus de 100 personnes, un kamikaze au volant d'une ambulance piégée a fait exploser sa charge au barrage de police à l'entrée de cette rue, autrefois touristique, de 300 mètres de long. Près d'un arbre aux branches nues, un petit attroupement s'est formé. Un garçon d'une dizaine d'années tend son bras vers une branche. Hommes et femmes, le regard levé, scrutent les branches décharnées.
Tu vois ?
Où ça ?
Ici, dans la branche, regarde.
Oh my God.
Oh mon Dieu, vous voyez ce morceau qui a la couleur de l'arbre ? C'est horrible.
Un morceau de chair humaine carbonisée pend. Des restes d'humains calcinés sont mêlés aux débris de verre, aux objets cassés dans la poussière, la boue, la suie, rassemblés en petits tas le long du trottoir ou dans un coin des échoppes et des boutiques éventrées. Au bout de la rue, les étals de verre, des rates, couleur turquoise, de chaussons en cuir, de vestes en polainé, de robes baloutches colorées, serties de petits miroirs, ont disparu. Ismaël, lui, est là, près de sa charrette, sur laquelle sont disposés des petits tas de différentes noix, des graines de pipasol, et un petit réchaud à gaz dans lequel il fait griller des grains de maïs mélangés à du sel et à des épices. Il a 14 ans.
J'ai vu beaucoup de blessés samedi, vraiment beaucoup de blessés, il y en avait partout. Moi je n'ai pas peur, mais mon frère, lui, oui.
Derrière lui, son petit frère, assis dans une petite carriole, regarde ailleurs, l'air préoccupé. À ses pieds, des paires de chaussures, des brosses à reluire et des pots de crème de cirage. Chicken Street peine à se ranimer. Mohamed Ibrahim est dans son magasin de photocopieuses.
J'étais juste ici, j'ai été blessé comme vous voyez. C'est le souffle de l'explosion qui m'a projeté et fait tomber. Au début j'entendais hum, boum, hum, dam, blum, une sorte de souffle, de pression. Cette porte-là a été projetée là-bas et pendant 10 minutes environ, j'étais inconscient.
La tête et les mains enserrées par un large bandage, le quinquagénaire installe de nouvelles portes vitrées pour remplacer celles qui ont explosé le jour de l'attentat. Son voisin fait la même chose. Dans la boutique d'à côté, Nabioula installe sur sa porte vitrée un film anti-déflagration et anti-explosion.
C'est pour la fenêtre. Elle n'a pas éclaté quand la voiture a explosé. C'est du film anti-blast.
Grâce à ce film, la vitre s'est fissurée. Aucun éclat de verre n'a été projeté. De nombreuses personnes ont, elles, été blessées par des fragments de métaux, de verre, de bois. À quelques mètres du barrage de police, visé dans l'attaque revendiquée par les talibans, se trouvent tous les magasins de photocopieuses. C'est ici que l'on vient photocopier ses documents et faire des photos d'identité pour les formulaires administratifs, à déposer dans les différents départements des ministères, celui des Affaires étrangères, par exemple, 600 mètres plus loin, ou au ministère de l'Intérieur, 10 mètres après le barrage de police. Des dizaines de personnes attendaient samedi 27 janvier, à midi, leur tour pour passer le checkpoint et déposer leur demande de visa à l'ambassade d'Inde qui se trouve près des bureaux du contre-terrorisme et de l'Union européenne.
Et donc là, on va chez Pamir. Pamir qui est une boutique qui est tenue par plusieurs frères et qui vendent des pashminas, des patous, ces grands châles traditionnels pour hommes. Donc là, on est à l'entrée, on a des chapans, ces manteaux traditionnels qui sont suspendus, des robes traditionnelles afghanes aussi. On descend un escalier. Et on arrive dans une sorte de galerie commerçante. Donc des tapis qui sont accrochés au mur, Et on voit là effectivement les débris de verre, donc les vitres qui ont explosé le jour de l'attentat. Salam alaikum.
Bonjour.
Salam. Khobastin.
Comment ça va?
Ça va et vous, ça va?
Ça va bien, merci.
Derrière cette porte, l'arrière-boutique, Nasser se tient debout, derrière son comptoir en bois, et ses piles de châles et foulards, les traits tirés.
J'étais dans un petit bazar au bout de la rue, au cinquième étage. Je faisais du shopping quand il y a eu l'explosion. J'ai cru que le sol s'effondrait, que j'étais tombé au rez-de-chaussée. Je me suis précipité à l'extérieur. Tout était sans dessus-dessous dans la rue, j'ai couru jusqu'ici. Mes enfants étaient dehors.
Ils sont quatre frères à travailler ensemble. Tous se trouvaient là ce jour-là avec leurs enfants.
Mon fils jouait dehors au soleil. Il a eu très peur. Quand il y a eu l'explosion, il était dehors, il a vu ensuite les gens courir partout. Et lui ne savait pas où aller. Il était complètement déboussolé. Mon neveu a fini par le retrouver et par le ramener à la boutique.
Farid, l'aîné de la fratrie, n'était pas dans la boutique, mais à quelques pas.
Beaucoup de gens ici morts. Beaucoup de gens.
Que vous connaissez?
Oui. Samedi, je suis avec mon fils, je suis pas dans le marché que j'ai amené ici, bombe.
Ah, tu l'as entendu toi aussi, la bombe?
Oui, beaucoup de gens morts. Beaucoup de difficiles. Juste maintenant, je suis parlé que quatre faire parler, de faire aller dans la boutique, de faire dans l'Amazon.
Ce que tu veux dire, c'est que maintenant, vous venez pas tous les quatre ensemble, vous venez juste deux ici viennent à la boutique et les deux autres restent à la maison?
Oui, oui. Que de mort, d'hommes dans l'Amazon. L'Afghanistan, maintenant, beaucoup de vie.
C'est plus difficile aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est difficile, oui. Hier, on n'a pas beaucoup de clients. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de clients.
Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as peur?
Tous les jours, par exemple, maintenant que je suis déjà je suis ici, regardez comme moi, beaucoup de difficile. Je pense les jours comme ça que, bam.
Arif était à l'intérieur de la boutique, mais son neveu jouait dehors. Ils sont tous sains et saufs, mais sont sous le choc.
Est-ce que tu as peur?
Beaucoup. Parce que quand je vois l'attentat, il y a beaucoup de gens que je vois qui meurent et blessés. Nous, on n'a pas, deux jours, je n'ai pas dormi aussi. Beaucoup de pleurs aussi, ça. Beaucoup, ma famille aussi. Beaucoup de pleurs. Ouais.
Tu n'arrives pas à dormir parce que tu revois sans cesse les images?
Parce que nous, on n'a pas dormi beaucoup parce que tout le temps, il pense cela, ça, les attentats. Mais mon petit fille, tout le monde, il pleure aussi, beaucoup de pleurs aussi, ça. Et maintenant, il m'a dit que nous, on n'a pas allé à l'école, on n'a pas allé à le cours de français, anglais aussi, cela.
Parce que c'est juste à côté?
À côté, voilà. Il regarde les attentats, il regarde les gens qui les couraient, mais maintenant, il change la tête.
Tu veux dire qu'il est traumatisé?
C'est ça, ouais. Il est 5 ans et maintenant il n'est pas dormi aussi, il n'est pas mangé aussi.
Mustapha balaye devant sa porte. Il a une boutique de tapis dans la rue. Dans son chaloir camis couleur crème, la tenue traditionnelle, il déplie ses tapis. Un vieil homme entre.
Il n'a pas de l'argent de réparer leur taxi. Il m'a dit s'il y a moyen de me prêter 4000 afghani. Après, quand j'ai de l'argent, je te donne. Mais c'est bon, c'est pas grave. De temps en temps, quand je vais avec ma femme, je prends leur taxi et on va. Il m'attend chez ma oncle.
Et donc, tu l'aides alors?
Oui, je l'aide.
Mustapha, comme de nombreux commerçants dans cette rue de Kaboul, est le premier à venir en aide aux autres. Une bienveillance règne ici. Mais Mustapha, traumatisé, a décidé d'essayer de quitter le pays.
Et dans le quartier, pendant la rue de Chicken Street, est-ce que, en discutant avec les autres commerçants, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont décidé de partir?
Oui, il y a deux, trois gens que j'ai parlé. Ils ont dit que ouais, peut-être quand on ferme notre business ici, on va ailleurs. Soit Turquie, ils ont dit, soit Iran, comme les pieds comme ça, ouais. Pour aller à Dubaï, ils vont aller là-bas pour continuer leur travail là-bas.
On parle beaucoup aussi de la tristesse, bien sûr, et on parle aussi de la colère. Est-ce que vous avez un sentiment de colère ou pas du tout?
Le sentiment de colère, oui, j'ai beaucoup le sentiment de colère pour l'instant. De Taliban, des Daïch et les groupes terroristes qui viennent ici, qui tuent les gens. On ne pense pas qu'il est qui, mais nous, on est tous les gens qui vivent et on a droit de vivre. Tout le monde, il a droit de vivre. Si vous voulez quelque chose, il faut que tu viennes, il faut que tu parles. Et ça, c'est la solution. Mais la solution, ce n'est pas des attaques, des attentats, de tuer les gens, de tuer les enfants. Ça, ce n'est pas la solution. Il faut qu'il vienne, qu'il parte avec le gouvernement d'Afghanistan, qu'on a des choix. Et il faut que le gouvernement d'Afghanistan, il va parler avec eux. Et on aura la liberté et la paix. Si eux, ils vont faire comme ça, et tout le monde, ils sont en colère avec eux.
Et le fait que les États-Unis aient dit on ne va pas négocier avec les talibans après toutes ces attaques, hors de question de penser à des négociations. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est quelque chose que vous comprenez et que
Parce
vous
que
soutenez
la solution, c'est ça, qu'on va parler. Si on va faire tout le temps la guerre, vous savez qu'il y a des 7 ans qu'ils ont fait la guerre, mais la résultat, c'est zéro. Mais il faut qu'on va trouver une solution, qu'il viendra ici, et le gouvernement qui va parler avec eux, ils vont trouver une solution. S'ils ne parlent pas, il y aura tout le temps les mauvaises choses comme ça.
À côté, la boutique Istalef Gallery. Hassan se réchauffe les mains près d'un réchaud à gaz.
Quand je parle aux autres commerçants, ils me demandent de répéter 2 ou 3 fois. C'est à cause de l'explosion. Ils n'entendent plus. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu dis? À cause de la grosse explosion.
La terre se met à trembler soudainement. Les secousses durent quelques secondes. Tous les commerçants se ruent dehors. Rien de grave, mais Hassan ne rentre pas dans sa boutique. Il s'appuie contre le battant de sa porte. Les yeux rougis, la gorge serrée, il fixe les devantures de ses voisins.
Quand j'évalue la situation ici, personne n'est en sécurité. Quand je pars de chez moi le matin, je dis adieu à ma famille parce que je ne les reverrai peut-être jamais. Il n'y a aucune garantie de rentrer vivant chez soi. Vous savez bien, chaque jour, c'est de pire en pire en Afghanistan et particulièrement à Kaboul.
En disant au revoir, Hassan sourit, comme Mustapha dans la boutique de tapis, comme les 4 frères de la boutique de Chal, comme Mohamed, Ibrahim, Nabioula, Ruhoula, près de leur photocopieuse, comme les policiers qui ont remplacé au barrage leurs collègues dont la vie a été fauchée par le kamikaze. Malgré leur profonde tristesse, malgré leurs traits étirés, leurs cernes, leurs regards flottants, ils se retiennent de pleurer pour sourire en saluant leurs voisins, en saluant les passants. Najiboula, lui, n'y arrive pas. Sa lèvre inférieure tremble. Il s'interrompt pour contenir ses larmes. Assis sur le trottoir, une aiguille entre l'index et le pouce, il recoue une paire de tennis déchirés. Avant l'attaque, ils étaient 2 assis côte à côte à faire ce travail. Il est seul désormais. Son ami est mort devant lui le jour de l'attentat. Najiboula accuse les Américains d'apporter la guerre dans son pays. Une 10aine d'hommes autour de lui s'arrêtent, l'écoutent et renchérissent sur le même ton. Il n'y a pas de paix avec les talibans à cause des Américains, disent-ils. Nombreux sont ceux qui ressentent une colère sourde à l'égard du gouvernement également. Nouri, 29 ans, la contient aussi au fond de lui, car le désespoir et l'abattement, mêlés à la peur, prennent le dessus.
Je suis tout le temps en train de réfléchir. Je me méfie des gens, des voitures, ce qui veut dire que je suis psychologiquement malade. Je n'ai jamais été comme ça, mais maintenant j'observe les gens. Je m'éloigne de ceux que je trouve suspects. Je me sauve des endroits où quelqu'un que je trouve bizarre se trouve. Je marche alors plus vite pour m'échapper. Et particulièrement quand il y a les convois des forces étrangères qui circulent tout près de vous, là c'est la crise de panique.
Yeah. Est-ce que vous en parlez avec vos amis, votre famille?
Yeah, we do. With friends, for example.
Oui, nous en parlons. Avec mes amis, par exemple, nous avons l'habitude de sortir tous les soirs. On va faire un tour autour de chez nous, on discute, on boit du thé. On ne le fait plus la nuit. Hier soir, par exemple, je les ai appelés en leur disant « Allez, venez, on sort. Il neige, le temps est super. » Ils m'ont répondu « Non, c'est trop dangereux en ce moment. On reste à la maison. »
Quel genre de cauchemar vous faites ?
Well, it's very different. Sometimes.
Parfois, je me bats contre les insurgés. Parfois, je suis moi-même un insurgé. Récemment, par exemple, j'ai rêvé que j'étais avec le président Rani. J'étais avec lui dans un camp d'entraînement au tir. Le président Rani m'apprenait à tirer. Il me criait dessus en disant « S'il vous plaît, tirez correctement, vous ne savez pas tirer ». Et j'avais peur. Parce que je me demandais, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? C'est le rêve le plus drôle que j'ai fait, mais c'était un cauchemar.
Yeah, that was one of the funniest ones, but it was a nightmare.
Est-ce que vous trouvez que c'est pire aujourd'hui?
Yeah, we do actually.
Nous avons grandi pendant la guerre civile, mais à cette époque, vous pouviez dire où se trouvait la ligne de front et éviter d'approcher cette zone et survivre. Aujourd'hui, nous sommes face à une autre sorte de guerre, avec des attaques suicides, des voitures piégées. Cela a interrompu et déstructuré nos vies à Kaboul. Et puis ces cauchemars me mettent dans un état d'angoisse. Je ne pensais jamais avant au fait que je pouvais être tué dans ma voiture, sur la route, dans un espace public. Maintenant, je ne vais plus en voiture au travail. Je marche. Je n'ai pas envie d'être bloqué dans ma voiture s'il y a une explosion. Alors je marche. Et je prends un taxi dans la rue. Comme ça, si quelque chose arrive, je peux me sauver à pied. Bien sûr, tout est stressant parce qu'il y a ces cauchemars, le fait que votre famille s'inquiète pour vous. Et sur les réseaux sociaux, on voit tous les commentaires tristes, négatifs et les photos des explosions. Il y a toujours dans votre subconscient quelque chose qui vous rappelle qu'il faut être vigilant et prudent à cause des attaques.
La peur tapie dans le ventre, la conscience d'être en danger permanent est au cœur des conversations. Rahiba est à la tête de la maison de couture Laman. Son amie Rohina, enseignante dans le primaire, passe souvent la voir après sa journée de travail.
C'est devenu une routine à laquelle tout le monde s'est habitué en Afghanistan. Ça fait mal à chaque fois, mais on a appris à ne pas être trop affecté, même si nous le sommes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme si on bâtissait des murs autour de nous pour ne pas nous effondrer. Les Afghans sont habitués à vivre avec ce sentiment d'insécurité. Vous apprenez à vous contenir. J'ai besoin de me reposer psychologiquement. J'en ressens de plus en plus le besoin. Chaque nouvelle explosion m'affecte un peu plus. C'est différent pour chacun. Je n'ai perdu personne dans ces attaques. Mais vous n'avez pas besoin de perdre quelqu'un pour savoir qu'il y a un danger permanent. C'est ce qu'ils m'ont demandé à l'école où j'enseigne. Si j'avais perdu quelqu'un, je leur ai dit non. On peut être affecté, même si on n'a pas perdu de proche. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Je devais prendre du temps pour me reposer, lire un livre.
Ça fait très mal, oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement proche de nous que ça fait partie de notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire que ça affecte moins, mais on apprend à construire une sorte de mécanisme de protection de façon naturelle en étant dans ce pays, un moyen pour ne pas arrêter d'aller de l'avant. Malgré la peur, les deux amis n'ont pas pour autant modifié leur mode de vie.
Mes parents me disent « ne va pas ici ou là-bas ». Je leur réponds « nous devons vivre, nous devons bien sûr être prudents. Je ne compte pas sur la police ou quelqu'un d'autre pour me protéger. Partout où je vais, je regarde les gens autour de moi, j'observe les gens et j'évite les foules. Mais pas tant que ça non plus. Rahiba disait que l'on devait se donner du courage et aller de l'avant. Mais ce n'est pas si facile. »
Ces dernières années, rien n'a vraiment changé. Les violences sont devenues plus régulières. Mais je pense que tous ceux qui restent en Afghanistan croient en un avenir meilleur. Au moins pour eux, pour leur famille, leurs enfants, au moins pour les prochaines générations, même s'ils ne le voient pas pour eux-mêmes. Mais oui, il y a toujours de l'espoir.
Oui, comme disait un de mes amis, nous n'avons pas le luxe de nous permettre de ne pas avoir de l'espoir. Nous devons en avoir. Si nous n'en avons pas, alors autant rester chez soi, assis sur son canapé, à ne rien faire.
Rohina et Rahiba gardent l'espoir de voir la paix s'installer en Afghanistan. Mais comme de nombreux Afghans, elles sortent chaque jour de chez elles avec le sentiment que rester en vie dans leur pays n'est qu'une question de hasard. La vie à Kaboul, malgré les attentats, grand reportage de Sonia Ghezali, réalisé par Eva Moshinsky.